Ce dimanche a eu lieu la 9e journée mondiale des pauvres, une journée mondiale instituée par le pape François et qui est fixée au 33e dimanche du temps ordinaire.
Vue de ma fenêtre, Étienne Dallaire.
Il est toujours un petit peu regrettable de penser que nous avons besoin d'instituer des journées mondiales pour que nous ne perdions pas le souci des grands problèmes de l'humanité. Mais, d'un autre côté, ces journées mondiales ont l'avantage de braquer au moins une fois par an le projecteur sur tel ou tel grand problème qui secoue notre monde. Il est clair que la pauvreté matérielle n'est pas la seule forme de pauvreté, loin de là. Nous avons parlé, il y a quelque temps, de la pauvreté de ceux qui subissent l'isolement, particulièrement les personnes âgées. Il faudrait aussi parler d'une pauvreté psychologique dont souffrent un certain nombre de nos contemporains, d'une pauvreté affective, mais la plupart du temps, on s'aperçoit que la pauvreté matérielle est souvent à la racine des autres pauvretés. Il existe un barème qui s'appelle le seuil de pauvreté. Il est calculé par rapport aux personnes qui vivent avec un niveau inférieur à 60% du niveau médian de leur pays. Par exemple, pour la France, cela représente 1200 euros par mois pour une personne seule, 1800 pour un couple. Mais s'il y a également un autre barème qui est celui de la pauvreté absolue, c'est-à-dire quand vos revenus ne vous permettent plus de faire les dépenses essentielles à la vie quotidienne. La moyenne européenne de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté est de 21%. Le récent rapport annuel des Petits Frères des Pauvres, publié le 30 septembre, affirme que 2 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté en France. Au niveau mondial, si nous regardons le problème de la faim, qui est quand même le problème peut-être le plus crucial, une bonne nouvelle nous vient du rapport des Nations Unies qui estime que la faim recule à l'échelle mondiale, mais par contre, mauvaise nouvelle, elle augmente en Afrique et en Asie de l'Ouest. Selon ce rapport de l'ONU, 8,2% de la population mondiale, c'est-à-dire 673 millions de personnes, a connu la faim en 2024. On constate, à l'échelle du globe, une diminution de 15 millions de personnes par rapport à 2023, 15 millions de personnes en moins qui souffrent de la faim. Mais cette tendance positive contraste avec la hausse constante de la faim en Afrique et en Asie de l'Ouest. En Afrique, plus de 20% de la population a été confrontée à la faim en 2024. Cela représente 307 millions de personnes. D'après les projections de l'ONU, 512 millions de personnes pourraient souffrir de sous-alimentation chronique d'ici à 2030. Presque 60% d'entre elles seront en Afrique. Pourquoi un réel partage n'a-t-il pas lieu? C'est une question fondamentale, question abordée, entre autres, par le pape Léon XIV dans son intervention de ce dimanche mondial de la pauvreté. Le pape Léon XIV, dans son homélie, a tissé des liens entre le thème de la pauvreté et celui de l'espérance, puisque l'Église catholique est toujours en année jubilaire sur ce thème. Il invite l'Église et la société à reconnaître les pauvres non comme des objets de charité, mais comme des acteurs essentiels de l'espérance. Il rappelle que l'aide aux plus démunis relève d'abord d'une exigence de justice avant d'être un simple geste de charité. Et il exhorte à développer des politiques concrètes pour garantir à tous l'accès au travail, à l'éducation, au logement et à la santé. Le pauvre est tout désigné pour devenir témoin d'une espérance forte, justement parce qu'il la professe dans des conditions de vie précaires, faites de privation, de fragilité et d'exclusion. Autrement dit, le pape semble nous dire « le riche qui a les mains pleines ne peut plus ou peut difficilement encore espérer parce qu'il croit en ses richesses, il croit en leur puissance, il croit en leur pouvoir et il ne se tourne donc plus vers Dieu pour y placer son espérance. La plus grande pauvreté consiste, selon lui, à ne pas connaître Dieu. C'est une règle de la foi et un secret de l'espérance. Tous les biens de cette terre, les réalités matérielles, les plaisirs du monde, le bien-être économique, bien qu'importants, ne suffisent pas à rendre le cœur heureux. Il rappelle enfin que si pour le chrétien, la véritable patrie se trouve dans les cieux, néanmoins, la cité de Dieu nous engage pour la cité des hommes. Cela comporte donc le devoir d'assumer sans tarder des responsabilités cohérentes. En effet, la pauvreté a des causes structurelles qui doivent être affrontées et éliminées. Les pauvres, dit-il, ne sont pas une distraction pour l'Église, ils sont nos frères et sœurs les plus aimés. C'est pourquoi la Journée mondiale des pauvres veut rappeler à nos communautés que les pauvres sont au centre de toute l'œuvre pastorale. Les pauvres sont des sujets créatifs qui nous poussent à trouver toujours de nouvelles façons de vivre l'Évangile aujourd'hui. À la fin de son intervention, le pape Léon XIV a salué un certain nombre de belles initiatives qui ont lieu çà et là, dont personne ou peu ne parle, mais qui, néanmoins, sont des signes d'espérance vis-à-vis de ce grand fléau qu'est la pauvreté. Alors, si vous le voulez bien, nous allons mettre en relief l'une ou l'autre de ces belles initiatives. Je parlerai tout d'abord de ce que l'on appelle le village de François, qui est un lieu de vie partagé tout à fait innovant. C'est le 4 octobre 2020, en la fête de François d'Assise, que le premier village de François s'est ouvert à l'abbaye Sainte-Marie du Désert, dans la Haute-Garonne, pour les personnes et familles en situation de fragilité. Le projet a pris corps dans l'ancienne abbaye des moines cisterciens. Être en cohérence avec ses idées, en cohérence avec sa foi, c'est la raison d'être d'Étienne Villemain, le fondateur des villages de François. Dès sa création, à l'abbaye de Sainte-Marie du Désert, 30 familles postulent pour le village de François. 6 d'entre elles seront retenues. D'ici 2022, après 4 tranches de travaux, le village accueillera près de 150 personnes d'horizons divers. Familles, migrants, personnes handicapées, sorties de prison, mères célibataires, personnes âgées, personnes de la rue, etc. Le village de François repose sur 3 piliers: le vivre ensemble, l'activité économique et l'écologie intégrale. Alors le village a lancé des jardins partagés en permaculture, un chantier d'insertion appelé à la bonne ferme. Les habitants participent aux activités, ils payent un loyer et on responsabilise les résidents avec un travail. D'autres villages de François verront le jour à Lourdes, Pau, Toulouse. À Lourdes, l'ouverture du village de François a eu lieu en 2024. Et je voudrais vous parler maintenant d'une communauté contemplative qui accueille des jeunes filles trisomiques, les petites sœurs disciples de l'agneau. Elles sont installées dans le centre de la France. Et elle forme la première communauté contemplative au monde à accueillir des personnes atteintes de trisomie 21 dans une vie consacrée. Tout part dans les années 80 d'une relation entre Lynn, une jeune femme valide en recherche spirituelle qui voulait vivre sa vocation dans le service des plus petits, et Véronique, une jeune femme trisomique qui, elle, voulait se consacrer au Seigneur. Cette jeune fille, atteinte de trisomie 21, ressentait un appel à servir Dieu, mais elle se heurtait à des refus dans toutes les communautés où elle allait. Lynn et Véronique vont commencer une vie commune centrée sur la prière, puis elles sont rejointes par une autre jeune fille trisomique. Puis, en 1995, la croissance de l'effectif pousse les petites sœurs à déménager. Elles s'installent dans une propriété au Blanc, une commune de 6500 habitants située dans le diocèse de Bourges. Les petites sœurs disciples de l'Agneau sont actuellement une dizaine, deux religieuses valides et huit trisomiques. Mais la communauté, certes, reste fragile. Lynn, qui entre-temps est devenue mère, Lynn, déclare « À une époque où la société, en manque de repères, ne semble plus trouver un sens à la vie ni lui accorder un prix, notre communauté voudrait, par le simple témoignage de nos vies consacrées à Dieu, réaffirmer le caractère sacré de la vie et de la personne humaine. » L'expérience atypique de cette communauté semble en tout cas répondre à un défi anthropologique pour le monde actuel, soumis au diktat de l'efficacité et de la productivité, dans lequel les personnes trisomiques sont parfois infantilisées ou réduites au silence. Devenir religieuse et offrir sa vie à Jésus avec les petites sœurs trisomiques, c'est entendre un appel à se consacrer avec les plus petits, les plus faibles, en témoignage de l'évangile de la vie.
Vue de ma fenêtre, Étienne Dallaire.